Quels sont les deux livres indispensables dans votre bibliothèque? Ceux que vous voulez conseiller à d'autres designers? C'est la question que nous posons aux designers que nous rencontrons. Ils partagent avec nous leurs lectures indispensables, les livres qui les inspirent ou questionnent leurs pratiques quotidiennes. Dans ce deuxième épisode de notre série, c'est Théodora, Margot et Nicolas qui explorent avec nous leur bibliothèque. Si vous souhaitez participer, partager les livres qui vous inspirent, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à livre@designmasterclass.fr. Vous pouvez également retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr, mais également sur les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify ou Google.
Bonjour, oui, je m'appelle Théodora, je suis Studio Lead et UX UI Designer chez Goodpatch. C'est une agence de design internationale et je suis en France, ça fait 3 ans. Je suis d'origine roumaine américaine. Alors, le premier livre qui est vraiment, j'adore, s'appelle 8 clés pour travailler à l'international. C'est par Erin Meyer. Et son travail se concentre sur la complexité des différences culturelles. Elle a vécu partout dans le monde, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, et elle a bien réfléchi et elle comprend bien les différentes complexités culturelles qui existent. Et moi, j'avais lu ce livre en anglais. Le titre en anglais s'appelle « The Culture Map ». C'est très différent par rapport au titre en français. Mais ça vous parle déjà de la complexité culturelle qui existe même dans différentes langues. Et le deuxième livre s'appelle « Le livre des décisions » par Michael Krogus et Romain Chapeller. Ce livre, c'est un livre de poche et qui a 50 modèles qui sont pragmatiques, visuels et méthodologiques qui aident à prendre des décisions. Chez Goodpatch, on a un librairie qu'on partage avec tout le monde. Donc, on a le droit d'acheter n'importe quel livre et de le mettre dans une bibliothèque qu'on partage avec tout le monde. Et c'est génial parce que les deux, je les avais découverts grâce à mes collègues qui les avaient achetés avant. Je vais commencer avec 8 clés pour travailler à l'international. Erin Meyer, l'auteur, elle donne plein d'exemples qu'elle a parcouru même pendant sa carrière et elle a réussi à diviser toutes les différences culturelles dans 8 catégories essentielles. D'abord la communication, aussi l'évaluation, la persuasion, la façon de diriger, la prise de décision, la confiance, la gestion du temps et finalement l'organisation du temps. Les exemples aident beaucoup et je me suis vraiment retrouvée dans beaucoup de ces exemples. Et elle explique dans la communication, il y a une échelle du contexte faible versus une communication très contextuelle. Donc, en général, dans les pays de l'Est, dans l'Asie, le Japon, et je travaille avec beaucoup de Japonais, la Chine, la communication est très contextuelle. Ça veut dire si mes collègues japonais sont pas d'accord avec ce que je dis, ils vont pas le dire. Pour eux, ils vont peut-être rien dire parce qu'ils ont appris ça dans leur culture. Et moi, je suis plutôt américaine dans mon style de travail et de communication. Donc, je suis très contexte faible, je dis ce que je pense. Et c'est ce qu'il dit Erin, et qu'il faut jamais changer ton style, il faut juste comprendre la culture des autres. Donc par exemple la communication, je peux pas changer ça, c'est ce que je suis, aussi la manière que je m'exprime, si je suis très conflictuelle ou expressive ou pas, je peux pas changer ça. Et une fois que j'avais commencé à travailler avec des Français, en fait, et être vraiment team lead pour une équipe de Français, j'ai réalisé que oui, tout le monde le sait qu'en France, les Français sont plus conflictuels. Ils disent ce qu'ils pensent, mais ça m'était arrivé à moi en tant que team lead. Et je savais pas comment séparer ça, cette conflit, cette manière directe d'aborder quelqu'un personnellement versus professionnellement. Erin, elle m'a aidée à comprendre que oui, les Français, sont conflictuelles, mais aussi expressives. Et j'ai trouvé mes collègues allemands aussi conflictuels, mais ils sont pas assez expressifs que le français. Et du coup, cette petite nuance, ces petits changements, je l'avais prise comme si c'était personnel pour moi-même. J'ai vite fait changer mon attitude sur ce sujet-là, quand j'avais des collègues qui avaient des problèmes. Et j'ai immédiatement, après avoir lu ce livre, pris une autre manière d'aider mes collègues et de structurer la conversation, de mettre la conversation dans un sens positif. Je vais vous lire un passage du livre qui est aux pages 200. Si vous avez déjà le livre, peut-être vous le connaissez. En anglais. After returning to China, Shen spoke to several European colleagues about what had happened at her presentation in Paris. One of my French teammates explained that students in the French school system are taught to disagree openly. As you may recall from our chapter on persuading, students in the French school system are taught to reason via thesis, antithesis, and synthesis, first building up one side of the argument, then opposed side of the argument, before coming to a conclusion. Consequently, French business people intuitively conduct meetings in this fashion, viewing conflict and dissonance as bringing hidden contradictions to light and stimulating fresh thinking. As Shen's colleague explained to her, we make our points passionately. We like to disagree openly. We like to say things that shock. With confrontation, you reach excellence, you have more creativity, and you eliminate risk. Donc, je savais déjà tout ça, mais pas exactement les raisons pour lesquelles. Et c'est vrai, j'ai jamais réfléchi qu'en fait, ce aspect conflictuel en France, ça vient des études. Ce petit livre à poche, le livre des décisions, comme je vous avais dit, répond à questions pour prendre les décisions, avec 50 modèles que peut-être vous connaissez déjà, comme le SWOT analysis. J'ai jamais vu un livre qui comprend tous les modèles, qui sont accessibles dans un seul endroit. Parfois, je recherche souvent sur l'énorme espace Google des différents modèles pour utiliser pendant mes workshops. Et j'ai trouvé ça fantastique. C'est vraiment un livre avec conception, c'est pratique. Tu peux même photocopier les différents modèles, tu peux les barrer, compléter et développer toi-même. D'abord, il y a des modèles qui t'aident à t'améliorer toi-même. Par exemple, comment apprendre à travailler de manière plus efficace pour toi ou comment trouver la meilleure solution. Tu peux utiliser le SWOT analysis, la matrice BCG, il y a plein d'autres choses. Par exemple, la boîte morphologique. Après, il y a aussi une catégorie pour mieux te comprendre toi-même. Donc, d'abord t'améliorer, mais après aussi, c'est important de te comprendre. Et finalement, la dernière catégorie, c'est pour mieux comprendre les autres. La plupart des modèles sont assez complexes, en fait, pour parler pour un podcast. Je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, de regarder en ligne, de regarder le livre et les différentes méthodologies. Et une méthodologie que je pensais c'est un peu facile à vous partager, à comprendre, elle s'appelle la théorie de la pensée inconsciente et comment apprendre à décider de manière intuitive. Et je veux juste vous lire la petite description ici. On pourrait être tenté de croire que les bonnes décisions sont les résultats d'estimations réfléchies et systématiques. C'est vrai dans le cas les plus simples où il est avisé de mesurer les avantages et les inconvénients à tête reposée. Pour des décisions plus complexes, en revanche, où le meilleur choix n'est pas clairement visible, il peut être utile de mettre ses réflexions au repos pendant un moment. En effet, si vous avez accumulé suffisamment d'arguments et d'informations, il vous sera plus facile d'agir si vous vous fiez ensuite à votre intuition. Ce phénomène s'explique par le fait que votre subconscient est plus habile à analyser les masses d'informations. Et moi, je vais utiliser cette théorie personnellement pour ma vie privée.
Est-ce que tu peux me parler de ta bibliothèque, des objets qui y trônent et de la relation que tu entretiens avec cet endroit?
Ma bibliothèque chez moi, elle est petite. J'ai peut-être environ 50 livres. La raison pour laquelle est j'ai déménagé beaucoup. Depuis que je suis à Paris, ça fait 3 ans, j'ai déménagé 4 fois. Et je sais bien qu'est-ce que ça veut dire de déménager avec beaucoup de livres. Par exemple, ce livre de « Comment mener les discussions difficiles », je vais le lire et je vais le donner à mes collègues à Berlin. Peut-être c'est la raison pour laquelle j'ai pas mal les livres en anglais, mais ça m'arrive de garder les livres comme ce 8 clés pour travailler à l'international que j'ai lu et relu et qui m'avait inspiré aussi de donner une conférence. Donc ce livre-là, c'est à moi, je vais le garder parce que c'est très intéressant. Et après, j'ai des livres en français qui appartiennent à moi, mais qui sont très spécifiques pour améliorer mon français. Par exemple, des classiques, Alexandre Dumas. Et je parle roumain aussi, je suis trilingue en fait. Et j'ai des livres en roumain que je lis pas assez. Et la plupart d'eux sont des cadeaux. Et plutôt sur la thématique religieuse orthodoxe, que j'avais reçu à l'église, je chante dans une chorale, donc après les concerts, on reçoit pas mal les cadeaux, et parfois ce sont des livres en roumain sur le sujet religieux. Et on a des photos dans notre bibliothèque, je dis notre bibliothèque parce que je le partage avec mon copain, on a des différents objets, mon copain il est un grand fan de rugby, donc on a un grand ballon avec son équipe préférée. Et j'avais aussi mis des petites décorations roumains qui me rappellent de mes origines.
De son côté, Margot, qui est à la fois illustratrice et designeuse, a décidé de nous partager les bandes dessinées qui l'inspirent.
Bah, du coup, c'est Margot. Je suis brand designer chez Mindset, une start-up d'intelligence artificielle qui développe des chatbots. Voilà, et à côté, je suis freelance en illustration, donc brand designer le jour et illustratrice la nuit. Alors, être brand designer, c'est essayer d'assurer la cohérence de la marque sur tous les supports, autant externe qu'interne. Donc, c'est essayer de faire en sorte que l'entreprise se reconnaisse en tant que marque et une identité forte, même au sein des équipes, et autant pouvoir... Même si c'est une start-up, même si on est 30 à 60 personnes, pouvoir avoir une identité forte auprès de nos clients. Du coup, c'est plus des livres d'illustration. Je retiens donc Persepolis de Marjane Satrapi, donc les 4 tomes, évidemment, et Les culottés de Pénélope Bagieu, pour deux raisons extrêmement différentes. Pénélope Bagieu, c'est plus pour le propos, le fait de... On parle beaucoup de féminisme qui, j'ai l'impression, est un gros mot, alors qu'en fait, c'est pas un gros mot. C'est pas besoin d'être aux extrêmes, oui, fémène et compagnie. C'est plus essayer de faire en sorte que la femme ait sa place dans la société. Et du coup, Pénélope Bagieu, avec les culottés, a réussi ce tour de force, c'est de mettre en avant et mettre en lumière les histoires de femmes qui ont fait des choses incroyables. Et donc voilà, au sein de ces 2 tomes qui sont juste extraordinaires et que je recommande à tout le monde. Et Persepolis, c'est vraiment pour le côté graphique qui est très très fort, en nuances juste noir et blanc. Donc fond noir, fond blanc, et je trouve que c'est très impactant. Et voilà, en plus de l'histoire qui est assez forte, vraiment très forte, voilà, le style graphique en lui-même est très puissant aussi. Mais oui, c'est vraiment une problématique hyper actuelle et beaucoup trop importante pour qu'on la bypass. Enfin, ça parle à tout le monde. Je me rends compte que plus on est trash dans les propos, plus on essaie de mettre en exergue des choses graves et plus ça marche en fait. Et je trouve que ces 2 livres illustrent assez bien ça. C'est le fait de mettre le pied dedans. Enfin, mettre le pied dans la porte permet de conscientiser plein de choses. Et oui, ce côté féminisme, je trouve qu'il s'est vachement enclenché avec les culottés, en partie aussi, à mon sens, hein, en tout cas. Et puis, c'est vraiment que la femme se sente légitime dans tout ce qu'elle pense. En fait, en général, on a toute l'impression de vivre des choses de manière isolée, alors que pas du tout. En fait, on ressent les mêmes choses, on a vécu les mêmes choses à des échelles plus ou moins grandes. Et du coup, c'est important de pouvoir en parler aussi. Alors, mes deux livres de chevet en ce moment, du coup, c'est Repères de Jochen Gerner, qui est un illustrateur, que j'ai découvert dans le magazine Le 1. Pareil, très graphique, toujours noir et blanc, avec de petites touches de couleurs de temps en temps. C'est très data, presque gravure. Il travaille beaucoup les patterns, beaucoup en traits. C'est très géométrique, presque. Et le deuxième, c'est The Sick Rose. Ça n'a rien à voir. C'est de la gravure anatomique, plus poussée. C'est des aquarelles de plein de DCs des années 20. Plein de corps avec remplis de boutons ou de plaques, et c'est les explications de ce qu'est le typhus, de ce qu'est la gale, comment on peut reconnaître telle ou telle maladie de peau, voilà. Et pareil, ce livre est magnifique parce que c'est pas juste un recueil de plein de gravures random, c'est vraiment, même la couverture est belle, gaufrée, bien travaillée. Voilà, il est sublime. C'est deux belles inspirations.
Et s'il y a des gens qui voulaient devenir illustrateur ou illustratrice, tu leur donnerais quoi comme conseil ?
De rien lâcher. De vraiment rien lâcher. C'est énormément de travail. On compte pas ses heures, jamais. Tout tester. Pas écouter les gens qui vous disent « Ah, mais l'illustration, c'est bouché, l'illustration... Ouais. » C'est vraiment ta niaque et ton envie, tes influences aussi, qui font que tu vas y arriver. J'y crois à 100%. J'y crois à 100%. Et même si on n'a pas fait des études dans le domaine de l'illustration, bien sûr qu'on peut y arriver. Enfin, c'est vraiment une passion. Et quand on arrive à communiquer, qu'on arrive à trouver un public, ça marche de toute manière.
Peux-tu me parler de ta bibliothèque, des objets qui y trônent, et quel est ton rapport à cet endroit ?
Alors, oui, donc comme tout le monde, j'ai une magnifique bibliothèque qui est à blanche, affreuse, mais bien fonctionnelle. Alors, j'ai une passion pour la reine d'Angleterre, extrêmement vive, je suis incapable de savoir d'où ça vient. Mais du coup, j'ai 1500 figurines, et j'ai aussi une lettre, parce que... un an, j'ai envoyé un livre dans lequel j'avais illustré sa vie. Si c'était français. Et du coup, je lui ai envoyé, elle m'a répondu. Donc en fait, cette lettre est encadrée et posée sur cette étagère. Donc c'est un peu le Saint Graal. Et du coup, plein de petites plantes qui permettent d'agrémenter un peu, rythmer. Voilà, mes petites boîtes à bazar. Et puis, vous voyez aussi une collection d'appareils photo. J'aime beaucoup les vieux appareils photo, dont un 6-6 Lubitel que j'ai pas mal utilisé, qui fait de très belles photos vieillies. Donc, en fait, c'est une prise de vue du dessus. Et voilà. Et quelques autres aussi.
Enfin, pour conclure cet épisode, Nicolas nous parle du design émotionnel et d'expérience client.
Bonjour, moi je suis Nicolas Simon, je suis product designer chez YouSign, une startup qui propose une solution de signature électronique qui ambitionne d'être le leader européen et de changer la façon dont sont faits les accords aujourd'hui. J'ai fait de l'agence typiquement chez Equino, qui est dans le groupe Havas, mais aussi intégré, que ce soit chez Microsoft, anciennement Voyage SNCF, ou encore YouSign aujourd'hui. Alors moi, j'ai deux livres indispensables. C'est Design émotionnel d'Aaron Walters. Design émotionnel, ça fait longtemps hein, que je l'ai découvert. Il y a une grosse vague, effectivement, grosse vogue design émotionnel il y a quelques années. C'était... Surtout parce que à l'époque, il n'était pas traduit. C'était Jacinthe Busson qui avait fait une traduction de ce livre, enfin un résumé de ce livre effectivement en ligne qui m'a mis dedans, qui m'a amené à l'acheter, qui m'a poussé à aller chercher ce qui faisait écho à mon activité du moment. Je venais du web marketing, je faisais une forme de transition vers le design produit, et moi j'avais envie de pas forcément parler que de design fonctionnel, de design du UX pur, mais aussi de ramener de l'émotion. Le cœur de ce livre et du design émotionnel, c'est avant tout comment on va faire en sorte de ramener de la prescription sur un produit ou un service qu'on va créer à travers quelque chose qui est très fort. En fait, le design émotionnel, c'est la clé pour faire en sorte que l'expérience que tu proposes soit mémorable. Et en fait, il en parle très bien dans le bouquin, les expériences que tu as vécues, les expériences que tu as vécues dont tu te souviens et que tu vas du coup dont tu vas parler à tes amis, à ta famille, à tes collègues, ce sont les expériences qui t'ont le plus touché et qui ont le plus touché tes émotions. Le design émotionnel, c'est celui qui va t'amener à faire en sorte que tu te souviennes de ces expériences. Il a été très utile en agence parce que j'ai pu appliquer ces principes aux clients que j'ai pu rencontrer. C'est des principes assez fondamentaux et c'est une approche, le design émotionnel, qu'on peut appliquer assez facilement sur à peu près tous les sujets qu'on rencontre. Donc il y a quelques clés, donc il y a des principes théoriques, mais il y a aussi et surtout, moi ce que j'aime dans les bouquins que je lis, c'est des aspects très pratiques. Ici des exemples, il met en place une méthode qui s'appelle le product persona, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est un truc très simple, hein, mais pour moi c'est tu définis la manière dont tu pourrais avoir des interactions dans la vie réelle. Et au final, quand on conçoit des produits et des services digitaux, on a tendance à oublier en fait cette relation qu'on pourrait vivre dans la vie réelle. Et en mettant en place un product persona, et donc c'est ni plus ni moins qu'un persona appliqué à ton produit ou ton service, c'est ni plus ni moins amener de la personnalité à ce produit, à ce service. Et du coup, forcément créer du lien. Si tu ramènes un élément d'humanité, tu vas ramener du lien et tu vas forcément créer une expérience émotionnelle. Je vais vous présenter un court extrait de ce que Aaron Walter introduit sur le product persona. Si votre site web était une personne, qui serait-il ? Serait-il sérieux, tiré à quatre épingles, focalisé sur le travail mais digne de confiance et compétent ? Ou un copain bout en train qui égaye les tâches les plus banales. En suivant une structure similaire à celle d'une persona utilisateur, vous pouvez étoffer la personnalité de votre design avec une persona de design. Dans une interface, la personnalité peut se manifester à travers le design visuel, le texte et l'interactivité. Une persona de design décrit comment exprimer cette personnalité dans tous ses domaines et aide l'équipe à obtenir un résultat uniforme et cohérent. Quelques exemples intéressants, ceux de MailChimp, mais je ne veux pas forcément retenir cela, notamment parce que quand j'ai été amené à appliquer ces principes avec des clients, finalement, les aspects humour, surprise, etc., on les a fait, mais pas à la manière MailChimp. Enfin, il ne faut pas appliquer bêtement ce modèle en se disant « mettre de l'émotion ». Dans mon produit, ça va passer par des blagues. Pour autant, ramener de la personnalité à travers des clés très simples et notamment en définissant une forme de ton de voix, en réalité, ça te permet de focaliser sur quelque chose de cohérent, d'uniforme et tu vas garantir une forme d'identité et qui passe pas forcément uniquement par l'identité de marque justement, mais par cette identité de produit, créer une identité qui va faire que ton utilisateur, ton client, il va se reconnaître, il va y avoir une forme de fidélisation qui va se créer. Je ne connais personne aujourd'hui qui n'ait pas vécu une expérience, une bonne expérience, une très bonne expérience, qui n'en ait pas parlé autour de lui, le dernier resto dans lequel t'as mangé, sur lequel t'as non seulement super bien mangé, mais en plus t'as eu un super service, t'as pas été poussé au moment de l'addition dehors, l'ensemble de ton expérience était formidable, parce qu'elle était cohérente aussi, c'est évidemment une expérience dont tu vas parler à tes amis. Et le deuxième, c'est l'expérience client de Laurence Body et de Christophe Talek. Ce livre-là, je l'ai découvert il y a quelques années lors d'une conférence de Laurence Body. Comme pour le design émotionnel de Aaron Walter, ce livre, il traduit une approche qui est selon moi fondamentale vis-à-vis des expériences qu'on propose aujourd'hui. Elle explique très bien la situation actuelle, c'est-à-dire que dans des secteurs très concurrentiels, à niveau de qualité égal, à niveau de prix égal, aujourd'hui, les consommateurs, la différence, en fait, elle se fait plus sur ces critères-là. Et donc, le dernier critère qui est hyper important et qui est fondamental, ce qu'introduit Aaron Walter, mais à une petite échelle, elle le développe davantage, où elle explique effectivement quels sont les mécanismes qui nous conduisent effectivement à aller chercher de l'émotion. Elle se base sur un bouquin de Joe Pine, en fait, qui a été très important chez les anglo-saxons, qui a malheureusement jamais été traduit en français. Et en fait, elle tous les préceptes qu'elle met en place ici, c'est ce que Joe Pine a mis en place, et elle y met une dimension service design et UX design, design thinking aujourd'hui. Et ces deux éléments couplés font que aujourd'hui c'est une approche qui est extrêmement fondamental pour avoir un produit qui marche et qui plaît. Le meilleur exemple, en réalité, il est celui que je vis aujourd'hui chez YouSign, justement, où on a un produit aujourd'hui qui est extrêmement fonctionnel, qui plaît aux utilisateurs. Les retours qu'on a sont plutôt positifs, mais notre volonté, elle est d'aller plus loin aujourd'hui, et donc il a fallu aller chercher d'autres mécanismes, d'autres leviers que celui simplement du fonctionnel pour aller chercher de nouveaux clients, séduire au sens large, aller plus loin. Et donc, c'est des mécaniques que j'applique aujourd'hui chez eux, grâce notamment à quelques leviers, mais notamment celui, le, en fait, le premier levier qui a été important, ça a été celui de convaincre. Ce que j'aime avec le livre, c'est que avant même d'appliquer des méthodes, il faut convaincre. Alors que ce soit pour les designers en externe, en agence, pour convaincre leurs clients de la nécessité effectivement d'avoir une approche de design émotionnel ou de customer experience design, mais aussi en interne effectivement avec les décideurs, avec tous les stakeholders de l'entreprise. Et moi, ça a été très fondamental effectivement d'expliquer à travers des mécaniques fortes et simples pourquoi on devait mettre en place effectivement ces éléments-là. Il y a deux éléments en commun typiquement sur les livres, c'est la pyramide de Maslow mais appliquée aux produits ou aux services. J'allais dire, tout le monde connaît la pyramide de Maslow des besoins effectivement humains. L'idée effectivement, c'est de avant d'atteindre le stade optimal de développement personnel, de répondre aux besoins de base. Quand tu l'appliques effectivement à un produit ou un service, l'idée, c'est évidemment de répondre à des besoins de base, c'est-à-dire que faire en sorte que ton ton produit soit fiable et qui en gros il plante pas. Une fois que tu as franchi cette étape, que ce produit soit utilisable, simple à utiliser, et en fait le plus dur à atteindre, c'est ce dernier stade qui est celui du plaisir, de l'émotion. En gros, faire en sorte que ton produit ou ton service soit agréable, plaisant à utiliser. Et c'est là, en fait, c'est la clé pour faire en sorte que ce soit mémorable et que tu en sois prescripteur.
Peux-tu me parler de ta bibliothèque ? Quels objets on y trouve ? Et quel est ton rapport à cet endroit ?
Alors, ma bibliothèque, moi j'ai une bibliothèque assez grande dans mon salon avec plein de livres divers et variés, des beaux livres. Et j'ai une deuxième bibliothèque, et plutôt un petit tas de livres, une petite sélection qui est plutôt dans mon bureau, que je partage avec ma compagne, où je mets plutôt mes livres pratiques, notamment les livres dont j'ai parlé à l'instant. Ça me donne deux configurations effectivement d'usage. Il y a vraiment les livres dont je me sers au quotidien et ceux sur quoi je veux me référer régulièrement. Et puis après, il y a les livres d'inspiration. Et souvent, c'est pour ça que qu'ils sont proches géographiquement de mon salon, c'est que tu les lis pas évidemment dans un même contexte. Donc un peu de chill dans mon canapé, c'est clairement le meilleur moyen de les lire.